et filles.
Les coqs chantent et jouent pareil, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, le deuxième volet de notre visite sur le stand de la République de Côte d'Ivoire au dernier Salon international de l'agriculture de Paris. Cette visite est consacrée aux responsables, techniciens et acteurs de la pêche et de l'élevage qui composent la forte délégation conduite par M. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques. D'abord, la problématique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Côte d'Ivoire est à la recherche de l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques. Le cap fixé par les responsables nationaux, c'est l'horizon 2020. Pourquoi une telle volonté? On peut comprendre qu'un pays comme la Côte d'Ivoire soit déficitaire en production animale du fait des contraintes géographiques. Mais il est surprenant qu'en regard des potentialités du pays, la consommation nationale de poissons soit couverte à 67% par les importations, traduisant une forte dépendance du secteur vis-à-vis de l'extérieur. Les chiffres sont connus. En Côte d'Ivoire, le poisson constitue la première source de protéines animales. Cette consommation nationale, qui reste fortement marquée par les importations, est estimée à 320 000 tonnes par an pour une production locale moyenne d'environ 42 102 tonnes. Il se trouve que les atouts naturels de la Côte d'Ivoire sont considérables, avec près de 150 000 hectares de lagunes, 350 000 hectares de lacs et de nombreux bas-fonds propices à l'implantation d'exploitations aquacoles, ainsi que le riche faune aquatique renfermant plus de 100 familles de poissons dont plusieurs espèces ont un potentiel aquacole certain. On comprend donc tous les efforts déployés en vue de relancer la pêche, que ce soit la pêche maritime, la pêche artisanale ou l'aquaculture, à travers un plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture en Côte d'Ivoire pour 2014-2020. Avant d'aller plus avant, un état des lieux avec Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques.
Tout dépend des filières. Lorsque vous prenez par exemple la filière avicole, nous sommes partis de 18 000 tonnes par an au niveau de la production pour atteindre aujourd'hui 40 000 tonnes. Mais nous sommes loin encore d'atteindre nos objectifs parce que notre souci, c'est d'atteindre à l'horizon 2020 les 60 000 tonnes de production par an. Aujourd'hui, la consommation par habitant est de l'ordre de 1,8. Si vous faites la comparaison par rapport à l'Europe qui avoisine les 14 kg, vous voyez que nous sommes beaucoup en retard. Ce qu'il faut retenir, c'est que le poulet n'est pas tellement consommé par nos populations qui trouvent que c'est un aliment de luxe. Donc tout le monde n'y a pas accès. Si vous prenez le cas de la filière bétail, plus de 60% de ce que nous consommons nous arrive de l'extérieur. Parlant du poisson, les ressources halieutiques sont les protéines les plus consommées en Côte d'Ivoire. Malheureusement, notre flottille est vieillissante et puis nous avons des difficultés pour atteindre le taux de consommation normal, ce qui fait qu'il y a un déficit criant. Nous produisons aujourd'hui près de 70 000 tonnes par an, alors que nos besoins sont de l'ordre de 350 000 tonnes. Bon, mais nous avons même fait des avancées, parce qu'autrefois c'était 55 000 tonnes que nous produisons. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 70 000. Et la politique d'aquaculture que nous voulons mettre en place va nous amener, à l'horizon 2020, à produire 200 000 tonnes en plus des 70 000 tonnes. Et cela va nous permettre donc d'atteindre plus de 75% de ce que nous consommons. Ça, c'est l'objectif que nous voulons atteindre. Et Dieu merci. En matière donc de politique aquacole, il y a déjà le Japon qui met à notre disposition 2,5 milliards de francs CFA, avec bien sûr l'apport de la Côte d'Ivoire qui est de l'ordre de 500 millions, près de 3 milliards de francs CFA qui vont être injectés dans le domaine aquacole pour nous permettre donc de faire de la production halieutique assez intensive au niveau des éleveurs qui s'adonnent à l'aquaculture. Ça aussi c'est important. Le Japon également dans le domaine de la pêche nous construit un débarcadère à Sassandra de l'ordre de 12 milliards. Il y a le Maroc aussi qui nous construit deux débarcadères dont l'un à Lokodro et l'autre à Grand Lahou. Il y a le Brésil qui nous a fait parvenir des alevins que nous sommes en train de développer. Déjà, nous avons trouvé 10 sites pour servir de centre pilote où nous allons procéder à des grossissements des poissons et après quoi, nous allons les multiplier pour les mettre à la disposition des pisciculteurs. Donc, c'est-à-dire que nous avons un défi énorme à relever, surtout que nous avons mis en place le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture.
Je vous remercie, je vous souhaite un bon salon.
Merci.
Ce plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire est estimé à un montant de 446 973 milliards de francs CFA. Ce plan vise la réhabilitation et le développement des infrastructures de production, la transformation et la commercialisation des produits viande et poisson. Il prévoit la création de deux agences de développement, l'une pour la pêche et l'aquaculture et l'autre pour l'élevage, et la réactivation du fonds de promotion de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Par ailleurs, ce plan permettra de créer plus de 600 000 emplois directs et 1 750 emplois indirects et de réduire substantiellement les importations qui passeront de 300 000 tonnes à 100 000 tonnes. Le docteur Nyanji Adjo Daniel Patricia, spécialiste en gestion de ressources animales et végétales en milieux tropicaux, est directrice des productions d'élevage au ministère des Ressources animales et halieutiques.
La direction centrale des productions d'élevage, c'est une des directions techniques qui s'occupe principalement de trois aspects. L'aspect de génétique, c'est-à-dire tout ce qui est politique d'amélioration génétique du cheptel. Il y a l'aspect de modernisation des élevages, c'est-à-dire comment concevoir et faire évoluer les pratiques d'élevage en Côte d'Ivoire. Et il y a l'aspect approvisionnement et régulation du marché. Donc voilà les trois grands volets de la direction des productions d'élevage. Mais en gros, on pourrait dire que c'est la direction qui s'occupe d'élaborer les politiques d'élevage et de les mettre en œuvre à travers les différents projets, programmes du ministère.
Donc il y a la direction centrale dans vos locaux à Abidjan et vous avez des démembrements au niveau local.
Au niveau des régions, nous n'avons pas de démembrement particulier, mais c'est les directions régionales qui sont les démembrements du ministère, mais qui travaillent aussi bien pour la direction des pêches, pour la direction des services vétérinaires que pour la direction des productions d'élevage.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain ?
Concrètement, sur le terrain, comme je vous l'ai dit, la direction centrale ne travaille pas directement sur le terrain, parce que c'est une direction centrale qui conçoit les politiques, qui élabore les politiques, mais on travaille sur le terrain à travers les projets et programmes. Nous avons des projets et programmes d'élevage et nous avons aussi des postes d'élevage qui dépendent des directions régionales. Donc c'est ces directions régionales et ces projets et programmes qui sont les structures d'exécution qui mettent en œuvre ce qui est conçu, disons, si vous voulez, en aval au niveau des directions centrales.
Donc, il y a dans votre démarche, d'abord, augmenter la productivité, ça veut dire moderniser la façon de travailler et s'occuper du revenu du producteur, parce que quand même, il y a un volet social là-dedans. L'accompagner dans la commercialisation, ça signifie des infrastructures et tout au long de ce processus, préserver l'environnement.
Oui, c'est un peu résumé ce que vous avez dit, c'est un peu l'approche de cette politique-là. Donc il faut augmenter la productivité, c'est la base pour avoir des produits à moins coût, aider ceux qui les ont fait à pouvoir les commercialiser, donc à agir sur tous les maillons de la filière, de toutes les filières agricoles.
Pour nous y retrouver dans les différents projets et programmes, à ce stade, il nous faut préciser les choses. Pour ce qui est de l'agriculture, il y a le Programme national d'investissement agricole qui est une émanation nationale du Programme régional d'investissement agricole relevant de la politique agricole de la CEDEAO. Concernant l'élevage et la pêche, on a le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, qui est un document de stratégie élaboré par le gouvernement ivoirien en 2014. Dans ce domaine de la production halieutique, l'aquaculture constitue un véritable potentiel national qui mérite d'être largement exploité. Selon la FAO, les atouts naturels de la Côte d'Ivoire sont considérables. C'est pourquoi un accent particulier a été mis sur le fonctionnement des stations aquacoles de Jacquesville et de Mopoyem, avec une production de 100 000 alevins de tilapia et 25 000 alevins de mâchoiron. Et également sur la réalisation d'une étude pour l'aménagement d'un barrage à des fins agricoles et halieutiques dans le département de Mankono dans la région du Béré. Marc-Olivier Tocbé, ingénieur halieutique principal, est chargé de la station aquacole de Jacquesville.
La station aquacole de Jacquesville est une ferme de production de mâchoirons qui est sous la tutelle du ministère des Ressources animales et halieutiques.
C'est-à-dire que vous faites des alevins?
Nous produisons non seulement des alevins, mais encore des géniteurs.
Et vous fournissez ça aux éleveurs au niveau national?
Oui, cela rentre dans nos missions. Il s'agit non seulement de fournir des alevins de bonne qualité aux pisciculteurs privés qui n'ont pas la capacité de produire le mâchoiron, et également de donner des géniteurs aux mêmes acteurs du milieu.
Vous approvisionnez combien d'éleveurs?
Nous couvrons l'ensemble du territoire ivoirien et même au-delà. Nous avons une capacité de 1 million d'alevins. Cela dit que chaque fois que les pisciculteurs privés auront besoin de poissons, il faudrait que nous démenions pour leur livrer ces poissons.
Mais il se trouve que tout le territoire de la Côte d'Ivoire est propice à la pisciculture?
Oui, bien sûr. Mais pour ce qui est de l'élevage en Côte d'Ivoire, des zones ont été bien identifiées pour l'installation de ces projets. C'est pourquoi vous verrez qu'un poisson comme le mâchoiron est élevé sur toute la côte. Dans la zone sud également, vous verrez que le tilapia en zone sud et en zone nord et les silures en zone ouest.
Est-ce que vous êtes en train de me dire c'est que chaque poisson a un terroir de prédilection?
On peut dire, pour ce qui est l'installation des projets, il y a une étude sociologique qui a été faite par nos prédécesseurs, par les précurseurs de l'aquaculture, de sorte que si vous allez par exemple élever des silures en zone sud, vous ne trouverez pas de preneurs. Si vous élevez par contre du mâchoiron et du tilapia dans la zone sud, vous êtes sûr que vous ne pourrez pas satisfaire les demandes.
À ce qu'il y a des habitudes alimentaires, il y a des croyances?
Absolument. Les populations qui se situent au centre de la Côte d'Ivoire, les Akans notamment, ne consomment pas les poissons sans écailles, à l'exception du mâchoiron.
Et pourquoi?
Ce sont leurs coutumes. Si vous allez dans la zone centre de la Côte d'Ivoire et que vous élevez des silures, vous ne trouverez pas des preneurs parce que ces populations ne consomment pas de silures, à l'exception de quelques fonctionnaires qui sont en service et qui exercent leur service.
Ah donc, si je veux par exemple implanter une unité de production, il faut que je regarde d'abord le marché, les habitudes alimentaires des gens, et que je regarde si le terroir, si l'écosystème convient aux poissons que je veux élever.
Tout à fait, vous l'avez dit. Et c'est pourquoi pour installer un projet, on tient compte aussi de la sociologie des populations. Si vous voulez installer un projet, vous tenez compte d'abord des traditions des personnes. Ensuite, vous regardez si le terrain est propice à l'installation de ce projet. Et puis, vous voyez si le marché est disponible.
Le travail proprement dit est un long processus qui commence au niveau du centre de recherche océanologique.
Il y a des sujets de 25 mg qui doivent être élevés sur une période de 21 jours avant d'atteindre 85 mg pour être élevés sur une période de 3 mois avant qu'ils atteignent 3 grammes pour être ensuite ramenés dans le milieu naturel qu'est la lagune.
Donc ce que moi j'ai vu là, c'est le résultat de tout ce processus?
Tout à fait. C'est un processus qui commence par la mise en nid des géniteurs dans des tuyaux en PVC. Ensuite, nous allons les mettre dans des conditions contrôlées. Quand je parle de contrôler, c'est la température, le pH qui vont induire la ponte les œufs seront...
Ah, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y a trop d'acidité ou pas?
Oui, parce qu'en pisciculture, en aquaculture, il y a des normes. Nous devons travailler en milieu neutre, c'est-à-dire des pH qui évoluent entre 7 et 7, 8. Il y a également, vous avez parlé de salinité, vous avez parlé du pH, il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte.
Donc, en fait, ce sont ces paramètres naturels qui induisent la ponte, qui induisent beaucoup de choses.
Tout à fait. Nous avons regardé le poisson tel qu'il s'est produit dans les conditions naturelles pour pouvoir réaliser et reproduire cette façon de se reproduire dans le milieu artificiel.
Bon, une fois qu'il y a eu la ponte, qu'est-ce qui se passe?
Une fois qu'il y a eu la ponte, les œufs seront siphonnés, c'est-à-dire récupérés dans des seaux délicatement, pesés pour voir les performances de chaque géniteur et apportés dans un incubateur.
Mais comment vous pesez des choses qui ne sont même pas visibles à l'œil nu?
Oh, ça se fait, la technologie et la technique, la science a tout prévu.
Oui, mais vous ne m'expliquez pas ça.
Oui, nous allons collecter ces œufs-là avec des tuyaux de siphonnage que nous allons mettre dans des petits bocaux avec de l'eau, c'est ce qu'on appelle une pesée différentielle, et sur des balances qui ont des précisions qui sont très sensibles, des balances de 200 grammes.
À différentiel, par exemple, vous mettez la semence dans l'eau, vous pesez, vous connaissez le poids de l'eau, vous connaissez le poids du récipient, et la soustraction de tout ça donne le...
Tout à fait, vous l'avez dit.
Bon, et une fois que vous avez pesé, qu'est-ce que vous faites?
Lorsque les œufs sont pesés, ils sont maintenant envoyés à l'incubateur. Dans l'incubateur, nous allons suivre les paramètres de l'eau, c'est-à-dire la température, le pH, la salinité.
Bon, et après les incubateurs, qu'est-ce qui se passe?
Après les incubateurs, 3 à 5 jours après, c'est le maximum, les œufs vont éclore et les larves seront délicatement récupérées pour être envoyées dans des auges, c'est-à-dire ce sont des bassins d'élevage larvaire.
Mais il y a un terme qu'on m'a utilisé en pisciculture, et je vous tiens, c'est l'occasion de m'expliquer ça. La dureté de l'eau, c'est quoi?
Quand l'eau devient dure, ça veut dire que les paramètres sont carrément extrêmes. Ce sont des conditions qui ne favorisent plus la survie des poissons.
Ah, ça veut dire que le pH, c'est trop, la salinité, c'est trop, il y a beaucoup de choses. Tous les paramètres, ça ne va plus.
Tout à fait, ça veut dire qu'on sort des normes d'élevage.
C'est ce que vous appelez une eau dure.
Une eau dure, oui.
Ah ouais, mais convenez avec moi que me dit une eau dure, moi je suis un profane.
Oui, c'est chaque...
Je me suis demandé si c'était des glaçons ou pas.
Non, chaque domaine a un langage spécifique qui lui est propre. Et par exemple, vous direz en aquaculture, quand vous dites l'aquaculture par exemple, c'est un thème général, c'est un thème générique. Quand ça concerne les poissons, c'est de la pisciculture. Tout ça, ce sont nos vocables.
Maintenant, vous avez les alevins, vous les mettez en bassin. Et comment ça se passe?
Les poissons, les alevins sont en bassin. Ces larves-là seront nourries avec des aliments qui ont des granulations différentes. Nous passons de moins 0,2 mm jusqu'à 1,1 mm. Pendant 21 jours, l'élevage sera suivi. Les bassins seront nettoyés, régulièrement nettoyés pour enlever les aliments restants. Et jusqu'à 21 jours, les larves seront transférées dans d'autres bassins appropriés.
Ah oui, parce que suivant leur taille, quoi?
Suivant leur taille, nous allons faire un calibrage. Nous allons trier les poissons pour que les tailles soient uniformes et homogènes.
Mais comment vous triez ça? C'est vraiment tout petit, là.
Oui.
Et surtout sans les tuer, sans les blesser?
Oui, absolument. Nous avons des tamis à partir desquels nous faisons le tri. C'est-à-dire les poissons sont passés dans le tamis. Ceux qui vont passer à travers les mailles des tamis seront mis dans des bassins. Ceux qui ne passent pas ont des tailles uniformes.
Ah, ceux qui ne passent pas, ça veut dire qu'ils sont trop gros?
Non, ceux qui ne passent pas sont gros, ça veut dire qu'ils seront regroupés pour pouvoir être élevés ensemble.
Et on met un autre tamis encore pour...
On met un autre tamis pour permettre aux poissons de progresser normalement.
Ça, on est parti de la ponte. À quel moment je peux avoir ce poisson-là dans mon assiette? Il faut que j'attende combien de temps?
En pisciculture, l'un des éléments très importants, c'est l'aliment. Je le précise parce que dans notre ancienne pratique, il fallait attendre 11 mois avant d'avoir des poissons marchands, c'est-à-dire des poissons consommables de 400 à 500 grammes.
11 mois?
11 mois, parce que l'aliment qui était utilisé n'était pas performant. Aujourd'hui, avec les efforts du ministère des Ressources animales, il y a des aliments qui sont disponibles et qui nous permettent d'avoir des mâchoirons de 500 grammes en seulement 6 mois.
Ah oui, c'est nettement mieux, parce que s'il faut que j'attende... J'ai mon manioc qui est prêt, j'ai mon attiéké qui est prêt, j'attends le poisson, 11 mois, c'est long.
Tout à fait. Et ce n'était pas rentable pour les pisciculteurs privés, parce qu'il fallait attendre 11 mois, sinon 18 mois, pour pouvoir entrer dans leurs investissements.
Alors, j'ai vu que vous avez amené du poisson, des escargots, ça y est, dans les bocaux. On peut aller voir les poissons là.
Tout à fait.
Je vous suis. Mais l'avantage, c'est qu'ils ne vont pas bouger. C'est pas comme les bœufs. Ils vont nous attendre. On arrive. Ah, par exemple, celui-là, là, c'est quoi?
Ici, il s'agit du mâchoiron. Nous l'appelons, son nom scientifique, c'est Chrysistis nigrodigitatus. Et ce poisson est distribué depuis le Sénégal jusqu'au Ghana.
C'est toute la côte, quoi.
C'est toute la côte. Mais il n'y a que la Côte d'Ivoire qui en fait l'écloserie. C'est-à-dire qu'il produit des alevins de ces poissons-là à partir d'une écloserie des stations.
Et par exemple, ceux-ci-là, ils ont combien de mois?
Ces poissons qui sont les plus petits sont des poissons de 6 mois. Et ceux-là sont des poissons de 11 mois.
Ah donc, lui, il est prêt?
Lui, il est prêt à la consommation. C'est un poisson marchand.
D'accord. On va voir d'autres?
Oui, nous avons les tilapia. Vous avez le tilapia.
Le tilapia. Ah oui, celui-là, je le connais.
Le tilapia, son nom scientifique, c'est Oreochromis niloticus. Oui. Vous avez ici une espèce de poisson, mais vous avez deux souches de tilapia. Mm-hmm. Vous avez la souche Boaké, qui est originaire de Côte d'Ivoire, qui est partie au Brésil dans les années 70, et qui a donné cette souche améliorée, qui est le tilapia Oreochromis niloticus, souche Brésil, qui est aujourd'hui élevé également sur nos stations.
Mais pourquoi celui-là est blanc et celui-là est plus foncé?
Effectivement, c'est le sens de l'amélioration. C'est-à-dire, à partir de croisements par famille, des sélections faites par famille, nous avons pu avoir des poissons qui sont plus éclairés et plus blancs. Et cela aussi a un objectif commercial. Plus la marchandise est présentable sur le marché, plus le client ou bien le consommateur il est attiré.
Ah donc, il faut que ça attire l'œil aussi?
Tout à fait, tout à fait. Quand vous déposez un produit sur le marché, il y a d'abord la qualité du produit prend en compte la présentation du produit.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Le dernier et peut-être le plus gros problème, la commercialisation. Car augmenter la productivité de l'aquaculture et de la pêche artisanale ne suffit pas. Tout simplement parce que le producteur n'est pas forcément un gestionnaire, surtout pour une gamme de produits dont il faut surveiller constamment les normes de qualité. Le docteur Jacques Daté est secrétaire exécutif du CARF, ce que les techniciens du ministère des Ressources halieutiques et animales appellent le comité d'administration du régime franc.
Le régime franc, c'est un régime qui administre les entreprises admises à une zone franc pour l'exportation des produits halieutiques vers hors Côte d'Ivoire.
Et quels produits et quels produits?
Nous avons généralement les dérivés de thon, les conserves, les longes, les miettes qu'on exporte vers l'Europe en général, les États-Unis et l'Asie.
C'est quoi les longes?
Les longes, c'est généralement le thon qui n'a pas été découpé en miettes. Donc c'est généralement pour les grands restaurants.
Parce que la Côte d'Ivoire a une grande production de thon.
Oui, la Côte d'Ivoire, depuis une dizaine d'années, a une production, c'est-à-dire une transformation de près de 50 à 52 000 tonnes par an pour les usines installées en Côte d'Ivoire.
Voyons voir, c'est-à-dire que le thon est dans l'Atlantique, quand il fait froid dans l'Atlantique Nord, il descend dans l'Atlantique Sud, c'est-à-dire dans vos eaux territoriales.
Absolument, mais ce que je voulais souligner, c'est que ces thons ne sont pas forcément pêchés dans les eaux ivoiriennes. Mais ce type de poisson est transformé par les usines de Côte d'Ivoire. Nous avons trois grandes conserveries qui transforment ce thon-là.
Ah, vous avez trois usines qui font ça?
Oui.
Et qui sont basées où?
Qui sont basées essentiellement à Abidjan, en zone portuaire.
D'accord. Et quelle sorte de conserve vous faites?
Oh, c'est le conserve de thon en général et il y a de l'exportation de produits de mer tels que les crevettes, les langoustes, les sèches.
Ah oui, parce qu'on a oublié aussi les autres fruits de mer.
Oui, absolument. Donc, il y a une entreprise qui s'en charge et qui alimente le marché français.
C'est-à-dire que ce sont des produits spécifiques. Donc, on a créé une structure spécifique dans une zone déterminée pour commercialiser ça, et c'est ce qu'on appelle un port franc.
Oui, donc en fait, on parle de zone franche, mais en fait, c'est des points francs, puisque chaque entreprise peut exporter à tarif zéro.
À franc, ça veut dire sans tarif?
Sans taxe, en fait, sans taxe, sans fiscalité. Donc, ils sont exonérés de toute taxe et impôt fiscal.
l'État a décidé ça pour donner un coup de pouce à la transformation.
Absolument, l'État donc a décidé cette politique pour que des emplois soient sauvegardés et en même temps pour donner un coup de pouce, comme vous le dites, à ce secteur.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une structure comme la vôtre vient chercher au Salon international de l'agriculture de Paris?
Merci. Étant donné que notre principal pays d'exportation, c'est la France, c'est l'Italie, alors il était bon de venir faire la promotion de ces produits-là.
Ah donc vous êtes venu montrer les produits-là?
Absolument.
Moi je ne les ai pas vus, ou c'est parce que je ne sais pas regarder?
C'est vrai, mais on les a mis sur un stand. Donc,
à la boutique là?
Oui, il y en a à la boutique, mais il y en a aussi sur le stand ministère des ressources animales et halieutiques.
Ah mais ça c'est parce que moi je ne sais pas regarder.
Absolument, puisque c'est des petites boîtes. Mm-hmm. Et là on a plusieurs produits présentés.
Ah, donc vous êtes venu montrer ces produits-là, oui. Chercher des partenariats.
Absolument, les partenaires c'est important puisque c'est un secteur qui demande beaucoup de devises. Donc dans ce sens, il est bon que pour booster, il faut le partenariat public-privé.
Ah, vous dites que c'est un secteur qui demande beaucoup de devises. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que depuis donc le poisson pêché jusqu'à la mise en poids, le process est long et ça demande beaucoup de moyens financiers.
Ah donc il faut faire attention à la qualité du poisson, il y a des questions sanitaires, il y a des questions de conservation.
Oui, justement donc pour ça d'ailleurs, depuis un an, nous sommes en concertation avec le WWF, qui est donc le Fonds mondial pour la nature, la conservation de la nature, pour que ce type de poisson respecte les normes sanitaires et deux, qu'au plan environnemental, que ça soit suivi et que ça vienne d'une pêche légale et non illégale.
Docteur, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on pêche tout, qu'on mange tout aujourd'hui et puis c'est fini, quoi.
Absolument, donc il faut penser à la gestion durable des stocks de thon. Et pour ça, donc, ce partenariat pour la conservation de la nature marine est nécessaire.
Et comment vous faites pour conserver un produit qui est dans l'eau? On ne peut pas l'évaluer, là.
Si, il y a aujourd'hui l'ICAT, qui est la commission internationale des thonidés, qui s'occupe à attribuer des quotas à chaque État. Donc, si vous dépassez ce quota, vous serez sanctionné.
Bon, mais je vous remercie, docteur.
Ok, à vous le remerciement. En tout cas, nous sommes contents de vous avoir reçu sur notre stand et nous vous attendons pour la prochaine édition. Merci.
De rien.
Nous étions sur le stand de la République de Côte d'Ivoire en compagnie des responsables, techniciens et acteurs de la pêche et de l'élevage qui composent la forte délégation de ce pays au dernier Salon international de l'agriculture de Paris. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayuba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, le coq chante @rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Avant de se quitter, toujours ce petit rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est très facile. Il vous suffit de télécharger l'application RFI puis Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.